Organic farming is steadily increasing. That's good.
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse.
Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt.
Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity.
Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Bienvenue dans cet 41e épisode de Nourrir l'Europe. Cet épisode est un résumé du débat que nous avons réalisé lors du récent Salon international de l'agriculture à Paris. Le débat a eu lieu fin février et vous pouvez en écouter l'intégralité sur notre page Facebook. Sous fond de manifestation d'agriculteurs, notre thème était simplement la question « Que fait l'Europe pour l'agriculture ?» Mes invités à Paris étaient Catherine Gélin-Lanel, directrice en charge de la stratégie et de l'analyse politique à la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne, et Christiane Lambert, la présidente du COPA, le comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne. Et tout d'abord, je voulais savoir de Christiane Lambert ce que, de son point de vue, de syndicaliste agricole française, mais aussi européenne, l'Europe, justement, faisait pour l'agriculture.
L'horizon des agriculteurs, c'est l'Europe. Pour nous, agriculteurs, la France, c'est pas la bonne taille, c'est trop petit. La bonne taille, c'est l'Europe. Et dans un contexte où on voit des grands blocs se manifester, les États-Unis d'un côté, l'Amérique du Sud de l'autre, la Russie, la Chine, parfois alliés, l'Europe, c'est la bonne taille. L'Europe a une histoire, l'Europe est enviée. À l'origine de l'Europe, la paix, ça paraissait inutile il y a quelques temps, c'est plus que jamais nécessaire depuis 2 ans, la guerre est à nos portes. Et on voit que les velléités expansionnistes de Vladimir Poutine pourraient conduire à une déstabilisation de l'Europe. Et d'ailleurs, les chamailleries que nous vivons en ce moment font que Vladimir Poutine se frotte les mains. Nous avons besoin de revenir aux fondamentaux.
Mais Christiane, que fait l'Europe pour l'agriculture proprement dite ?
On l'a beaucoup dit pendant le Covid, quand les Français n'ont pas manqué d'alimentation. Ça a été beaucoup dû au fait que l'Europe et la politique agricole commune a permis de construire des filières structurées pour produire en quantité, en qualité et pour pouvoir échanger. Historiquement, il y a eu aussi de la régulation de marché, ce qui a permis de donner de la stabilité à une certaine époque. Alors, on parle beaucoup des normes quand il y en a trop, mais elles sont nécessaires pour pouvoir échanger des produits sains, loyaux aux marchands en confiance et donc pouvoir échanger. Et puis, c'est aussi l'Europe qui a permis, par la politique d'installation, et la France en bénéficie peut-être plus que d'autres, d'avoir le renouvellement des générations, d'avoir des politiques structurelles, des politiques de montagne et puis des politiques environnementales peu à peu qui ont permis d'accompagner un certain nombre de nouvelles problématiques sur la protection de l'air, l'eau, la terre. L'Europe, c'est tout ça. À un moment où il est de bon ton de dire l'Europe n'a que des défauts, ou à un moment où certains, même s'ils le disent moins aujourd'hui, mais ils l'ont beaucoup dit par le passé, disent qu'il faudrait sortir de l'Europe, je pense qu'il est bon de rappeler tout ce que ça apporte au-delà des 9 milliards d'euros quand même, c'est pas rien, qu'on ne retrouverait pas dans le budget national. Et s'il y a un chiffre qu'on peut citer et qui pousse à bien réfléchir, c'est seulement 12% des Britanniques aujourd'hui revoteraient pour le Brexit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une déception très très forte dans ce pays-là. Donc certains vantent le Frexit, réfléchissons, réfléchissez, ne faisons pas n'importe quoi. Il faut que la raison l'emporte, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit pédagogique et courageux, parce que le populisme a cours.
Alors Catherine, je voudrais continuer ce déblayage de terrain. Donc presque la même question à vous en tant que représentante des institutions européennes et en tant que directrice en charge de la stratégie et de l'analyse politique de la DG Agri. En quelques mots, que fait l'Europe pour l'agriculture ?
Je dirais que l'agriculture a été au cœur de la construction européenne dès les premiers jours, dès le traité de Rome. Pourquoi ? Parce que la paix et la prospérité passent aussi par l'accès à une alimentation de qualité. Je rappelle qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on ne mangeait pas à sa faim en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même s'il y a encore des populations vulnérables. Donc, dès le début des années 60, une politique agricole commune qui a pour ambition de faire en sorte que l'Europe produise son alimentation, une alimentation saine, diversifiée, de qualité, à un prix abordable. Et pour ça, il fallait soutenir les agriculteurs et en particulier soutenir leurs revenus.
Justement, parlons aussi de financement, car ce que fait l'Europe pour l'agriculture, c'est aussi une question d'argent.
Alors, l'Europe, c'est la politique agricole commune, donc une politique forte, qui représente encore un tiers du budget de l'Union européenne, pour soutenir le revenu des agriculteurs. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un grand marché unique, c'est très important de le dire. Christiane disait, la France, c'est trop petit. Ben oui, on offre aux agriculteurs la possibilité de produire et pour leur marché national, mais aussi pour les marchés des autres pays de l'Union européenne. Et il est bon de rappeler, à l'heure où tout le monde parle de souveraineté alimentaire, moi je préfère le terme sécurité alimentaire, de dire que la sécurité alimentaire, on l'a au niveau européen. Il n'y a aucun État membre qui, tout seul, peut produire la totalité de ce qui est nécessaire aux Européens. Au-delà de ça, j'ajouterais, il y a d'autres politiques dans lesquelles l'Europe est aussi au service de l'agriculture et des citoyens européens. La protection des produits de qualité et des produits traditionnels, les appellations d'origine, les indications géographiques. Donc la protection aussi de notre patrimoine culturel, culinaire. L'Europe est riche de cette diversité. Et c'est une bonne chose, c'est important. Et puis l'Europe, c'est aussi un soutien important à la recherche et à l'innovation dans le secteur agricole et alimentaire. On a là aussi un soutien pour préparer le futur de notre secteur agricole.
Alors, lors des manifestations d'agriculteurs dernièrement, mais aussi dans pas mal d'épisodes de ce podcast, un sujet qu'on entend encore et encore, c'est la charge administrative pour les agriculteurs, qui va de pair, notamment avec les réglementations environnementales et plus largement le pacte vert de l'Union européenne. Alors, Christiane, qu'est-ce qui ne va pas ?
Alors, c'est vrai que le mot simplification, charge administrative, charge bureaucratique sont des termes qui ont été beaucoup employés. Il y a la charge administrative actuelle avec beaucoup de textes. Je me souviens quand on a négocié la conditionnalité, la première 2004 puis 2014 renforcée, c'est 21 textes, directives ou règlements qu'un agriculteur doit respecter pour percevoir ses soutiens. 21, c'est énorme. Hein. Quand certains opposants syndicaux disent « elle n'est pas assez verte, il n'y a rien dedans, voilà, venez quand vous voulez, 21 textes ». Et puis, il y a eu le verdissement avec des obligations supplémentaires. Et puis là, dans la nouvelle PAC, il y a l'éco-régime. Alors l'éco-régime, pour l'expliquer simplement à des publics non avertis, c'est retirer 25% des soutiens économiques aux agriculteurs et ne les redonner que si on montre patte verte et on s'engage dans un certain nombre d'engagements qualitatifs et environnementaux qu'il faut prouver. Et toute la difficulté, c'est que autant les agriculteurs admettent qu'il y a des transitions à opérer, qu'il n'y a pas de planète B, que le climat change, que la biodiversité a régressé, qu'il faut évoluer, améliorer, autant les textes pour le faire sont quand même d'une énorme complexité. Et puis il y a la perspective des textes du Green Deal et de Farm to Fork, 27 textes, enfin, on ne va pas tous les citer, mais c'est quand même énorme. Et c'est un véritable tsunami réglementaire qui a été perçu comme tel par les agriculteurs. Et d'ailleurs, la meilleure réprimande ou la meilleure claque qu'il ait pu avoir, c'est que quand Mme Ursula von der Leyen a dit le 13 septembre de l'année dernière « Je veux engager un dialogue stratégique pour l'avenir de l'agriculture, pour sortir des polarisations », tout est dit. Engager, ça veut dire qu'il n'existait pas avant. Un dialogue, ça veut dire qu'il n'a pas eu lieu. On voit bien aujourd'hui que Poutine ayant fait de l'alimentation une arme, l'Europe a intérêt à se réarmer et à ne pas dépendre d'autres. Or, le Green Deal, et plutôt l'application de Farm to Fork par certains de ces textes, c'était quand même moins de production. Est-ce que l'Europe peut mettre un genou à terre aujourd'hui en termes de production, alors que la FAO nous dit qu'il faut plus 70% de certains produits à l'horizon 2050? Donc il y a eu un problème de méthode, et ce qui est terrible, c'est que quand la méthode a raté au début, c'est très difficile à rattraper ensuite. Alors, quand on a sorti les tracteurs, ça fait du bruit, peut-être c'est ça aussi. Hein. Quand même 20 pays qui manifestent aujourd'hui, c'est historique quand même. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Les agriculteurs se sentent déclassés, mal compris, et puis sous une avalanche ou un tsunami de textes.
Alors Catherine, justement, récemment, la Commission a fait des propositions pour, je cite, « alléger la pression sur les agriculteurs ». Est-ce que vous pourriez nous en résumer l'essence ?
C'est toujours, c'est vrai, compliqué hein, de mettre en œuvre une politique agricole commune parce qu'on est bien obligé quand même de demander aux agriculteurs de respecter un certain nombre de choses avant de procéder au paiement. Donc ça peut entraîner inévitablement un peu de complexité. Et puis le fait aussi, il faut le reconnaître, que depuis des années, on a un niveau d'exigence vis-à-vis des agriculteurs en matière de respect de l'environnement, de respect du bien-être animal, par exemple, qui s'est accru. Parce que ce sont les exigences de la société. Donc tout ça fait que c'est vrai qu'on a eu ce besoin, cette demande de s'arrêter un peu et de regarder ce qui, dans la nouvelle PAC actuelle, mais au-delà aussi, dans la législation qui est applicable aux agriculteurs, dans le domaine de l'environnement, du bien-être, sanitaire, climatique, qu'est-ce qu'on peut simplifier, ou plus exactement, comment on peut réduire la charge administrative pour que les exploitants passent plus de temps à produire et dans leurs exploitations plutôt que devant leur ordinateur ou dans un bureau.
Et alors, comment est-ce que vous avez procédé ?
On a consulté les organisations professionnelles agricoles, les principales, dont le COPA, COGECA, bien sûr, et on a consulté les États membres en leur demandant de nous dire où est-ce qu'ils identifiaient des opportunités pour simplifier. Et on a recueilli de nombreuses propositions qui nous ont conduit à présenter un certain nombre de propositions de simplification à très court terme, tout de suite, et puis à court-moyen terme. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, certaines règles de conditionnalité, par exemple, sur la question des rotations, des dates, sur la question des espaces qui sont non productifs, sur la question des prairies. Donc, toutes ces règles-là, comment est-ce qu'on peut, sans diminuer l'ambition environnementale, alléger, donner plus de flexibilité aux États membres pour qu'ils facilitent la vie des agriculteurs, tout en préservant un haut niveau de protection, évidemment, de l'environnement en particulier.
Christiane, vous avez pu prendre connaissance des propositions qui sont avancées par la Commission. Est-ce que ça répond aux agriculteurs ?
Il ne peut pas y avoir d'un coup d'un seul une réponse, parce qu'il y a quand même eu une sédimentation, un empilement qui s'est fait. Sur ces sujets, il faut vraiment raisonner en européen. Marché unique, règle unique. Et ça, ça devrait être la base. Alors, il y a des choses intéressantes. Et par exemple, dans ce qui est sur la table aujourd'hui, proposition de la Commission et qui répond à une demande très forte, notamment de la France, c'est sur le ratio prairies et l'obligation de maintenir les prairies permanentes. On assiste aujourd'hui à une diminution du cheptel. On le regrette. Malheureusement, c'est comme ça. Eh bien, même quand il n'y a plus de cheptel, l'agriculteur est obligé de maintenir des prairies. Comment expliquer ça à un agriculteur ? Mission impossible. Et dans le même temps, la Commission européenne et d'autres institutions et beaucoup d'associations disent moins de viande, produisez moins de viande. Et la même Europe ouvre les frontières pour faire venir de la viande d'ailleurs. Il y a quand même quelques incohérences. Il faut vraiment aller vite sur ce sujet parce que ça, c'est quelque chose qui irrite les agriculteurs. Alors, quelque chose que ne fait pas l'Europe, c'est qu'elle ne fait pas vite. Ça, alors, la réactivité des décisions au niveau européen, c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup de mal quand même.
Et on est déjà au mot de la fin. Catherine, à vous, la défense.
Alors, peut-être dire, bon, on ne fait pas vite, bon, ça se discute. Et après, il faut reconnaître aussi, il faut qu'on emmène 27 pays. Et ça ne se fait pas en un jour. C'est ça aussi la beauté de la construction européenne, c'est qu'il faut emmener tout le monde. Mais je prends note. Peut-être de dire qu'au-delà de la simplification, qui a effectivement été un des thèmes récurrents dans les manifestations d'agriculteurs dans les différents pays de l'Union européenne, il y avait un autre sujet aussi, la question de la rémunération des agriculteurs. C'est qu'on va travailler rapidement aussi, de la même manière qu'on l'a fait pour la simplification, à faire des propositions. Alors là, c'est pareil, on aura besoin aussi de faire remonter les propositions des acteurs et notamment des professionnels du secteur agricole. On va travailler sur la question de la distribution de la valeur dans la chaîne agroalimentaire, qui n'est pas qu'une question réglementaire, c'est une question de rapport de force entre les acteurs économiques, mais on se demande aussi si l'Europe ne peut pas aider les États membres et les agriculteurs à faire mieux là-dessus, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours un déséquilibre très important du rapport de force entre les agriculteurs et les autres acteurs de la chaîne alimentaire, et que ça se fait souvent, pas toujours, au détriment de la rémunération des agriculteurs qui, je le rappelle, reste inférieure à la moyenne des revenus en Europe.
Et c'était déjà le mot de la fin de ce 41e numéro de Nourrir l'Europe, une édition spéciale enregistrée au Salon international de l'agriculture à Paris. Merci à mes deux invités pour leur participation à notre émission en direct et à ce podcast. Rendez-vous très bientôt à notre prochain épisode. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous.
Organic farming is steadily increasing. That's good.
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse.
Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt.
Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity.
Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.